Comment favoriser un partage équitable du pouvoir entre les participants et participantes, et entre participants, participantes et artistes, et ce, à partir de nos habiletés d'artistes?
Donc, de toutes ces réflexions, il y a plein de choses qui sont ressorties. C'est toujours, évidemment, enfin, la première chose qui nous venait, c'est de vérifier que tout le monde a parlé, puisque tout le monde parle plus ou moins, ça c'est correct, mais vérifier que tout le monde s'est exprimé, si en tout cas il avait l'envie de s'exprimer. Donc soi-même être attentif pendant qu'on anime à qui parle moins et est-ce que c'est souhaité ou pas, c'est ça. Quelque chose que j'utilisais souvent aussi, c'est de toujours donner la parole en premier à ceux qui sont les plus fragiles. C'est-à-dire, par exemple, dans un groupe où il y a des hommes et des femmes, peut-être d'emblée donner en premier la parole aux femmes parce qu'elles seront peut-être moins, enfin ça dépend des communautés, mais elles prendront moins facilement la parole après la parole des hommes. Pareil, des gens en situation de grande pauvreté prendront moins facilement la parole face à des gens qui ont fait des études universitaires. Donc pour faciliter la parole de tous, c'est donner en priorité la parole à ces personnes-là, voire préparer un peu leurs propos avant qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise, hein, si vraiment c'est important. On disait aussi de prévoir un temps où on validait toutes les décisions importantes ensemble, tous ensemble. Et d'utiliser pour ça des outils qui sont accessibles à tous. Alors ça demande évidemment de connaître son public. Ça peut être des outils, des icônes que tout le monde comprend, ça peut être des codes couleurs, mais que ceux qui sont moins, qui ont moins de facilité face à la parole, en fait, puissent les utiliser et puis les utiliser avec des nuances. C'est pas juste oui ou non, mais qu'ils puissent aussi valider leur réponse. On disait aussi varier les modes d'expression, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'écriture, le dessin. Donc varier les exercices où les gens s'expriment différemment, parce que comme ça, ils seront plus... Voilà.
Ils vont être plus à l'aise à la langue. Ouais.
On a ciblé aussi quelque chose qui n'était pas facile, c'est de faire attention à ce que même ceux qui parlent le plus facilement, soit pas toujours d'accord avec l'artiste, parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est « Ah non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. » Donc c'est peut-être laisser des temps où, laisser des temps où ils décident, enfin qu'ils aient leur propre avis sur leur création, qu'ils fassent des choses où, de façon autonome, sans que l'artiste intervienne. Vous me reprenez si c'est pas exactement ça. Pour avoir vraiment leur avis sur ce qu'ils font. Puis je parlais aussi des modes d'expression différents, c'est aussi varier comme on fait aujourd'hui les dynamiques de groupe, c'est-à-dire tout seul, il y en a qui sont plus à l'aise en petits groupes pour favoriser la parole, d'autant, voilà, c'est de trouver aussi des moyens différents. Et puis on avait juste des petites discussions, on n'était pas forcément du même avis sur la méthode de travail, c'est-à-dire laisser le groupe prendre sa place naturellement tout en veillant à ce que chacun soit à l'aise avec ça. Par exemple, s'il y a quelqu'un en retrait, c'est peut-être encore une fois quelque chose de voulu, mais peut-être pas. Donc c'est d'aller valider à chaque fois avec cette personne qu'elle est à l'aise dans son rôle et puis voir si elle n'a pas envie de faire autre chose. Donc peut-être proposer régulièrement de changer les rôles. Puis si la personne vraiment ne veut pas, là, c'est d'accepter aussi ça. Voilà. Il y a d'autres choses ?
Bon. Alors, il y a plusieurs points qui rejoignent une chance, hein? ce que tu viens de dire, Nadège, mais on y est allé un peu en progression. Vraiment, l'idée de base, c'est vraiment de connaître les participants et les participantes pour, d'une part, pouvoir créer du commun, trouver du commun dans tout ce que tout le monde a, et aussi trouver la force, le pouvoir de chacun pour pouvoir vraiment l'exploiter, puis le mettre en valeur de chacun des participants et participantes. Il y a aussi l'idée, des techniques à voir en termes plus spécifiquement d'animation, c'est que l'artiste pourrait assumer peut-être un rôle quand même d'animateur, de modérateur pour structurer certaines discussions. Une idée qui était aussi arrivée, c'était de co-construire une espèce de modalité de fonctionnement où les gens s'entendent sur, OK, ben, est-ce qu'on fonctionne par consensus, ou est-ce qu'on va prendre parfois des décisions au vote, ou est-ce qu'on fait des tours de table, ou en tout cas nommer cette notion-là de pouvoir pour que ce ne soit pas comme un éléphant dans la pièce, mais en parler, de dire, bon, ben, on est un groupe, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise, c'est vraiment en parler, au moins avoir commencé en ayant une discussion à ce niveau-là pour que tout le monde soit conscient, puis fasse des propositions. Fait que ça aussi, ça participe aussi à mettre en valeur le pouvoir de chacun. On a aussi parlé de la question d'alterner les modes de partage, d'exploration, donc au niveau de, que ce soit expérientiel, réflexif et des différentes techniques. Oui, et défaire les dynamiques pour défaire les jeux de groupe, des fois les complicités, ce qui fait qu'il y en a qui peuvent se sentir plus isolés. Donc varier comme ça des créations à deux, à trois, en plus grand groupe, et faire attention à, c'est ça, à défaire les dynamiques et en recréer des nouvelles. Et pour finir, oui, il y avait cette idée-là qui est vraiment importante, c'est que on croit que l'artiste doit aussi lui-même se donner un certain pouvoir pour être vraiment, pour donner, mais pour assumer ce rôle de guide d'une certaine façon qu'il doit avoir quand même. Alors, ce n'est pas un pouvoir monarchique qu'il impose, mais c'est un pouvoir qui fait qu'il peut entraîner, motiver, stimuler, donner le goût, donner confiance. Alors, c'est ça, c'est... dealer avec son syndrome d'imposteur avant de venir à l'atelier si besoin est. Mais à l'atelier, c'est ça, c'est avoir cette, porter vraiment cette confiance et assumer un certain pouvoir relatif. Voilà.
Dans notre réflexion, nous, on a abordé un peu de deux façons cette réflexion-là, d'une façon un peu plus globale puis d'une façon plus concrète. Puis en fait, on se disait que déjà le fait d'amorcer un processus collectif, c'est déjà un point de départ puis l'indicateur d'une volonté de partager les pouvoirs dans l'activité créative versus, par exemple, quelqu'un qui ferait juste bien, aller auprès d'une communauté pour prendre des données puis repartir avec, faire les trucs de son côté. À la base, on trouvait ça important d'être à l'écoute de la culture du groupe, vraiment d'avoir une posture qui permet d'être, c'est ça, présent aux besoins de ce groupe-là, mais aussi de prendre ça comme point de départ pour aussi les amener ailleurs, amener de la nouveauté, puis amener aussi ce que, comme artiste ou accompagnateur, peut-être on a de nouveaux comme éléments à proposer qu'eux n'avaient pas. Il y avait aussi cette idée-là, en fait, de définir, exprimer les attentes, les apports des personnes dans le groupe, puis de formuler des objectifs communs, mais vraiment de l'aborder à travers les forces, les motivations, puis les capacités des gens qui sont dans le groupe. Puis aussi, d'évaluer le désir d'engagement du groupe, parce que selon les groupes, ça arrive que des fois, des gens veulent plus ou moins s'impliquer, ce qui fait que ben, l'artiste va se ramasser avec plus ou moins de responsabilités et se faisant de pouvoir. Puis ça amène aussi la question de la répartition des tâches à l'intérieur du groupe, pour pas que ce soit la même personne qui ait tout ça sur ses épaules et qui ait la diversité. Et tout ça, en fait, ben, le fait de porter un processus comme celui-là, ça demandait aussi un dialogue puis une négociation un peu continue, puis vraiment un type d'animation qui va favoriser une participation égalitaire. Ça a été abordé un peu plus tôt. Il y avait aussi l'idée, dans ce processus-là, de multiplier les palettes puis les outils explorés, par exemple, passer par le théâtre, la littérature, etc. Puis ça, c'était à la fois pour donner aux gens une espèce de pouvoir de connaissance culturelle, de s'approprier différentes formes, mais aussi leur donner le pouvoir d'exprimer ce qu'ils sont à travers différents médiums, parce que, par exemple, l'écriture ne va pas parler à tout le monde, tandis que les arts visuels vont pouvoir parler à d'autres personnes, et ainsi de suite. Puis aussi, finalement, on avait l'idée de nommer les rapports de pouvoir réels ou potentiels avec lesquels il faut composer au sein du groupe, donc vraiment le faire de façon explicite. On donnait par exemple l'exemple d'un artiste, il y a des contextes dans lesquels il va arriver, puis c'est l'organisme communautaire qui va avoir eu la subvention et l'artiste va être là, mais il y a des fois aussi où c'est l'artiste qui peut arriver avec son projet financé ailleurs, avec certaines responsabilités qui viennent avec, soit en termes des fois de livrables ou d'un budget à gérer, etc. Donc tout ça va quand même changer potentiellement la façon dont le projet va être conduit avec le groupe. Donc, pour nous, c'est important de le nommer. Puis aussi, prendre en compte des fois des codes de vie communs qu'il pourrait y avoir dans certains milieux. On donnait l'exemple, par exemple, des centres des femmes qui ont des façons aussi particulières de procéder puis que c'est important de prendre en compte. Je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose?